besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Sous le soleil de Bretagne, dans notre jardin en Bretagne, accueillons Philippe Meunier. Bonjour Philippe.
Bonjour Morgan, bonjour à tous.
Bon festival de soleil, hein, aujourd'hui, demain, en partie aussi lundi de Pentecôte. Pas de grand coup de chaud, mais on dépasse les 20 degrés en Sud-Bretagne quand même, hein, Philippe.
Bah oui, bah enfin ça chauffe. Enfin,
ah ça y est,
enfin,
c'est parti.
On va enfin croire que le printemps est arrivé, dit dedans.
Ce que vous dites aussi, c'est ce qu'on observe, c'est surtout les températures nocturnes notre attention. Hein.
Oui, c'est ça. Elles ne montent pas beaucoup, en tout cas sur mon côté littoral nord. Hein. C'est vrai que le matin est frisquet et donc pour toutes les plantes frileuses, attention, n'oubliez pas, chers amis jardiniers, que les plantes sont dehors toute la nuit aussi. Hein, qu'elles n'ont pas de petites couettes, elles n'ont pas de
protection.
Elles n'ont pas rallumé le chauffage. Donc voilà, faites attention, les tomates, les courges, les courgettes, toutes les aubergines, tout ça, ça aime la chaleur, ce sont des plantes de chaleur, et donc protégez-les, mettez-leur une petite protection. Alors après, on peut faire des trucs plus ou moins sophistiqués, hein, mais quatre bambous et un sac plastique, ça marche bien, hein, déjà. On peut après faire des trucs un petit peu plus élaborés, mais le but du jeu, c'est quand même de leur mettre ça quand il y a encore les derniers rayons du soleil, pour que ça chauffe bien la bulle d'air qui est autour de la plante, et que cette bulle d'air se refroidisse le plus lentement possible pour qu'elle puisse passer la nuit tranquille, quoi.
Quel est le seuil, la température qui est un peu notre seuil de référence, à partir de laquelle on n'a plus à se...
Le seuil de référence, c'est 10 degrés au lever du jour.
C'est 10 au lever du jour, entendu.
Voilà.
Donc, au-dessus, c'est bien, et en dessous, il faut faire attention. Voilà,
c'est ça. Et c'est d'ailleurs, là on s'en aperçoit tout de suite, en général, c'est fin juin sur les côtes nord de la Bretagne, c'est au moment où le mildiou arrive.
Ah, attention,
et entendu. Oui, parce que du coup, le seuil de référence, c'est aussi pour le développement des plantes, mais aussi du mildiou qui se développe sur les plantes.
On ira dans un instant à Quimperlé, puis à Lorient, mais d'abord, restons sur la côte nord, à Lannion, chez Annie. Bonjour Annie, et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
J'aurais voulu poser une question à
Monsieur
Meunier. J'ai un camélia qui est planté au nord, un petit camélia, dans une terre humide et argileuse, recouverte de copeaux. Les feuilles jaunissent et on m'a conseillé d'enlever de la terre et de mettre de la tourbe. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La tourbe, donc.
Alors très franchement, je ne pense pas que ça soit nécessaire de mettre de la tourbe, c'est même plutôt pas nécessaire du tout, parce que la tourbe, ça a l'avantage d'être acide, et le camélia aime l'acidité, mais la terre lannionnaise est naturellement acide, donc il faudrait faire peut-être une petite analyse de pH pour s'en convaincre, hein, être sûr que ça soit bien, ça c'est la première chose, et puis la deuxième chose, il vaut largement mieux mettre un terreau de feuilles plutôt que de la tourbe. La tourbe, c'est très long et très difficile à réhydrater, à garder frais, et en plus la tourbe n'apporte que très très peu d'éléments nutritifs, alors que le terreau de feuilles est un petit peu difficile aussi, il faut bien surveiller l'hydratation du sol, surtout à partir de maintenant, parce que même s'il ne fait pas encore très chaud la nuit, les journées sont sèches et ensoleillées, donc ça dessèche vite, donc il faut bien faire attention, mais par contre ça nourrit la plante, donc ça va lui apporter ce dont elle manque pour pouvoir être jolie, bien verte, au lieu d'avoir des feuilles jaunes. Et voilà. Donc, essayez de trouver plutôt en jardinerie. Alors, demandez à un conseiller vendeur, il faut vraiment avoir un pH acide. Le pH est toujours marqué sur le sac, jamais du côté où il y a la jolie photo, c'est jamais de ce côté-là, il faut le tourner à l'envers. Et là, vous avez un petit carré où il y a la résistivité, le pH, et il y a tout un tas de renseignements qui sont très intéressants quand on sait les lire. Mais le pH, voilà, c'est important, et l'idéal serait d'avoir un pH de 5,5, 5,7, par là. Il existe, des terreaux de feuilles en jardinerie. Il faut peut-être aller plutôt sur une jardinerie qui offre un choix assez large, manière à avoir un petit peu de choix pour voilà. Et dans ce cas-là, un très bon de gratter un petit peu, de surfacer, ce qu'on appelle, donc vous écartez les copeaux, vous écartez la terre délicatement, il faut surtout pas attaquer les racines, et puis une bonne quantité là d'un très bon terreau de feuilles ou d'un très bon terreau acide, et puis vous mettez un carton et vous remettez les copeaux.
Entendu. Voilà pour le petit camélia.
Et vous arrosez.
Oui, bien sûr. Surtout en ce moment, parce que c'est assez sec là pour les jours à venir encore.
Il faut vraiment, là, il faut bien faire attention à ça, parce que souvent le camélia, c'est la soif qui lui fait mal.
Entendu, Annie ?
Entendu. Merci beaucoup.
À bientôt à Lannion. Merci Annie.
Au revoir.
Au revoir. Catherine est à Quimperlé. On va rejoindre Catherine dans son jardin. Bonjour Catherine, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, merci. Bonjour messieurs et merci pour vos conseils. Je souhaiterais savoir comment marcoter des hortensias et à quelle période, s'il vous plaît.
Le marcotage, juste pour les débutants, Philippe, en un mot, qu'est-ce que le marcotage ?
C'est le truc le plus facile à faire parce qu'il suffit simplement de prendre une branche d'une plante, de la courber, alors le problème c'est de le faire en délicatesse, là encore, de la courber et de mettre cette branche dans le sol et de l'obliger avec divers artifices à rester dans le sol et donc l'endroit qui est au contact du sol va développer des racines.
Entendu.
Et lorsque les racines se seront bien développées, on va sevrer le petit de sa maman. Ça marche plutôt bien. Alors, c'est vrai que ça marche pour l'hortensia, mais vous savez que les boutures, ça marche tout aussi bien, et c'est plus facile à faire parce que du coup, il n'y a pas cette opération de pliage des branches pour les mettre dans le sol.
Est-ce que vous aviez essayé déjà, Catherine, le marcotage déjà, ou c'est la toute première?
Non, par contre, des boutures, oui, j'en ai déjà fait.
Entendu.
Mais j'ai entendu Philippe Minier là parler de marcotage, ça fait pas très longtemps, et je voulais savoir.
C'est une première, donc.
Voilà.
Alors en fait, ce que vous pouvez faire, si vous voulez avoir beaucoup de plants, en fait, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir avoir beaucoup de plants, c'est de carrément buter un pied ou deux ou trois d'hortensias, mais vraiment les buter, c'est-à-dire que vous leur mettez de la terre sur 25-30 cm, et donc toutes les tiges qui vont se retrouver ensevelies vont toutes faire des racines, vont toutes marcoter, et vous pouvez donc, alors vous faites ça maintenant, et puis au mois d'octobre, novembre, eh bien vous pouvez couper toutes les tiges, par contre le pied mère, lui, va presque disparaître, sauf si vous en laissez une, et puis vous coupez toutes les tiges, et là vous avez des pieds d'hortensias prêts à replanter.
D'accord, et le pied mère disparaît.
Il disparaît si vous couvrez la totalité du pied, vous ne faites que des marcottes, mais en fait très souvent. Alors là, c'est un peu la loterie, c'est une fois sur deux, ça dépend aussi des espèces et variétés. Dans certains cas, ça peut redémarrer, dans d'autres cas, ça le fait mourir. Parce que du coup, on le taille vraiment à ras et à une période où il n'aime pas ça, c'est-à-dire au mois d'octobre, fin octobre, début novembre. Et à ce moment-là, souvent, malheureusement, il disparaît. Mais par contre, à côté, vous avez 6, 7, 8, 9, 10 jeunes pieds à replanter, donc l'un dans l'autre.
Oui. D'accord, c'est parfait.
Merci Catherine.
Merci beaucoup.
Passez une belle journée. À bientôt à Quimperlé. Au revoir. Dans quelques instants, après Bernard Lavillier, nous serons à Lorient, chez Odette.
Philippe Minier répond à toutes vos questions. 02 98 53 65 65.
C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Hola bajo cañoso, de Navi colonioso. Il vivait avec des mots passait sous le manteau, qui brillait comme des couteaux. Il jouait de la dérision, comme des armes de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs, qui font rire les enfants, mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Solitude.
sur mon piano, y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs qui font grincer les dents du grand libérateur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Je connais une chanson que je chantais, une chanson qui nous ressemble.
Bouddhi Gaïr, la Staline du Penza.
C'est la voix de Mandela, le tempo d'Octo Fella. Écoute chanter la foule avec des mots qui roulent et font battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur.
Le soleil, cette chanson de Bernard Lavilliers, France Bleu Bray Diesel. Allez, on y retourne tout de suite avec Philippe Meunier.
Une question jardin, notre expert y répond tout de suite.
Nous sommes à Lorient, dans le jardin d'Odette. Bonjour Odette et bienvenue.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Oui, je voudrais poser une question pour mon arbre de Judée, et dont je voudrais en faire des boutures. Alors je voudrais savoir à quel moment et comment on peut le faire, s'il vous plaît.
L'arbre de Judée.
Alors, l'arbre de Judée, souvent il rejette tout seul comme un grand, donc quand il est donc à partir d'un certain âge. Donc là déjà c'est facile, on récupère les drageons un petit peu comme on le fait sur les mimosas, et puis c'est reparti pour un second tour. Mais sinon, si vous voulez faire de la bouture, on va dire classique, il y a deux périodes qui marchent plutôt bien. La première période, c'est celle que je préfère, c'est celle entre le 15 août et le 15 octobre, donc avec grosso modo un optimum entre le 15 août et le 15 septembre, donc sur des tiges feuillées, des tiges de l'année, hein, donc feuillées, vous coupez, vous prenez des boutures d'à peu près 15-20 cm de long, vous enlevez les feuilles inférieures, vous coupez en deux les feuilles supérieures de manière à limiter l'évaporation, vous faites donc bien une entaille en biseau pour qu'il y ait un maximum de contact avec le sol, enfin avec la terre, et là vous mettez ces boutures dans un mélange moitié sable, moitié terreau universel, un terreau classique ou de la terre de jardin. Le terreau c'est plus léger, donc c'est un peu plus difficile à arroser, mais c'est un petit peu, c'est plus facile d'être sûr de ne pas inonder la bouture et de la faire pourrir. Et vous les mettez pendant une semaine, si c'est possible, un petit peu à l'étouffer avec un sac plastique au-dessus. En général, ça les aide bien. Donc, ce qui est important dans les boutures, c'est un, qu'elles ne dessèchent pas. Donc, on les met plutôt au nord, hein, un endroit où il n'y a pas de soleil de la journée ou très très peu. Surtout s'il y a le sac plastique, parce que sinon, elles vont cuire. Et la deuxième chose, le plus difficile, c'est que le pied soit toujours frais, jamais détrempé, jamais desséché. Hein. Et dans ces conditions-là, l'enracinement se fait... on va dire, à cette période-là, l'enracinement se fait entre 3 et 5 semaines.
Ce qui fait je vous remercie beaucoup.
Une bouture faite à ce moment-là, on peut la replanter à Sainte-Catherine.
À la Sainte-Catherine, d'accord, ouais. Entendu.
D'accord, merci.
Merci beaucoup, Odette. Belle journée à Lorient.
Merci.
Au revoir, Nicolas à Bézé-Cap-Cizin. Bonjour, Nicolas.
Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, Philippe. Moi, c'était pour... Pour Gérard, il a mal passé l'hiver, Gérardium.
Gérardium, ah bah oui.
Et du coup, il a moitié cramé. Donc, j'ai entendu dire qu'il fallait laisser les racines pour que ça reprenne, donc je savais pas trop.
Dans un premier temps, effectivement, toutes les plantes qui ont mal passé l'hiver, il faut surtout commencer par la ficher la paix, surveiller que... Ah bah tiens, c'est l'heure de se réveiller.
C'est pas Gérard, c'est Jean-Luc ça.
Ça c'est
Jean-Luc Lecoq.
Donc il faut surveiller que la terre soit quand même juste fraîche, hein, sans plus, qu'ils aient de quoi boire, mais que voilà, surveiller le redémarrage. Si ça redémarre, tant mieux. Si ça redémarre pas, on va dire fin mai, c'est fichu, voilà. Mais dès qu'on voit que ça redémarre bien, à ce moment-là, il est largement temps de couper tout ce qui est mort, tout ce qui est cramé, etc. Mmh. Et de commencer, mais quand c'est vraiment bien démarré, de commencer à remettre un tout petit peu d'engrais pour stimuler la plante, la booster et éventuellement la replanter dans un support de meilleure qualité. Hein. On a toujours intérêt, les géraniums, à les changer de terreau tous les ans parce que c'est gourmand, donc ils épuisent un peu le terreau de l'année d'avant.
D'accord. Et je vais te demander aussi, Philippe, tu m'avais dit là pour le lys, là, les petites bestioles rouges là,
les criocères.
Ouais. Et là je suis devant, il a moitié bouffé. En fait, c'est les larves qui le bouffent, mais
Les deux. Il y a les larves et il y a les insectes. Donc, ce qu'il faut, c'est passer tous les jours sur les lys. Il faut aller nettoyer les larves qui sont en dessous, que dans les espèces d'amas gluants noirâtres. Là. C'est un peu crapouille, mais c'est pas grave. On va nettoyer ça, on va les enlever. Hein, parce que les larves sont cachées dans leurs propres excréments et sont en train de boulotter les feuilles. Et puis, il faut surveiller les adultes. Donc, les adultes, quand on approche, ils se laissent tomber, mais ils se laissent tomber sur le dos de manière à ce qu'on ne les voit pas dans la terre parce que leur ventre est noir. Si leur dos est rouge, le ventre est noir. Donc, ils se tombent sur le dos, ils sont pas fous. Arrête de bouger, donc il faut les récupérer, si je puis dire, alors soit avec une boîte de conserve, soit avec une petite épuisette, les récupérer avant qu'ils touchent le sol, et puis là, bon, un petit coup sur la tête, et puis l'affaire est réglée.
Ok.
Il n'y a plus qu'à.
Merci bien, docteur.
Bonne chasse.
Allez, quel à vous.
Salut Nicolas, belle journée sur France Bleu Brésisel. D'autres questions en direct dans votre jardin sur France Bleu Brésisel.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
France Bleu Brésisel présente les Feux de l'humour à Plougastel. Du 22 au 26 mai pour la 10e édition, La Velvore reçoit Samy Améziane et son conte de Boudherbala ou encore l'étonnante et pétillante Élodie Pou.
Il y a des gens qui mettent toute leur thune dans un chat. Moi, jamais vous me verrez mettre des centaines d'euros dans un chat. De toute façon, j'ai essayé, ça rentre pas.
Élodie Pou, qui est aussi la marraine de la soirée des tremplins de l'humour.
Moi, je voulais un métier où tu travailles que le soir et où c'est bien payé, mais je suis allergique au latex.
Les Feux de l'humour à Plougastel, du 22 au 26 mai, un événement France Bleu Brésisel.
Bienvenue à bord, le magazine qui vous fait prendre le large, avec un invité.
Actuellement, nous ne sommes pas sur une trajectoire de 2 degrés qui est l'objectif de la COP21.
Des chroniqueurs.
Cette histoire va intriguer les chercheurs canadiens. Qu'est-ce qu'ils vont trouver à Red Bay? Ils vont trouver l'épave du San Juan.
Et des reportages.
Il faut s'imaginer que tout est condensé dans un sous-marin, c'est-à-dire que le moindre espace est occupé.
Embarqué pour une virée salée avec Bienvenue à bord, le magazine de la mer, le dimanche de 12h10 à 12h30 sur France Bleu Brésisel.
France Bleu Brésisel. France Bleu.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Aucun autre que toi. Aucun... aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large.
Large avec Françoise Hardy.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Sous le soleil de Bretagne, nous rejoignons Denise à Pamard. Bonjour Denise.
Bonjour.
Bonjour. Votre question à Philippe Meunier.
Alors, ma question, j'ai sur ma la lavande, sur les fraisiers, de la petite mousse, de la bave, qui ça fait de la petite mousse blanche partout. Et à l'intérieur, quand je nettoie, il y a une petite bête verte qui ressemble à un puceron, petite verte, vert pomme, vert vif. Et il y en a un petit peu partout, dans les jardins alentours aussi, chez mes amis. Donc je ne sais pas ce que c'est que cette bave mousse blanche.
Voilà,
et comment m'en débarrasser.
Sur la lavande et les fraisiers.
Et puis les petites, même la jachère que j'ai plantée, j'aime un peu tout, je crois.
D'accord.
Alors, c'est ce qu'on appelle communément le crachat de coucou, parce que ça arrive en général en même temps que les premiers chants du coucou, d'où ce mot que je trouve...
Ah, c'est bien le crachat du coucou, parce qu'on m'avait dit c'est la bave de coucou, mais bon,
c'est crachat de coucou, c'est plus mimi. Donc, en fait, c'est pas du tout gênant, cette petite bête qui est au cœur de sa bulle de lave, c'est la larve d'une petite cicadelle, donc une mini cigale. Cette larve, elle pompe un petit peu de sève à votre plante, mais vraiment un tout petit peu. Donc soit vous supportez leur présence et puis voilà, ça se passe sans problème, soit vous ne supportez pas leur présence, vous passez simplement un jet d'eau pour enlever la bave, parce qu'en fait la bave que cette bestiole sécrète, c'est pour se cacher des prédateurs. Vous avez remarqué effectivement qu'elle est d'une couleur vive, donc
oui, elle
a intérêt à se planquer. Donc si vous passez un coup de jet d'eau, vous enlevez la bave, donc les prédateurs la voient et la mangent.
Ah d'accord.
Voilà. Mais bon, c'est une bestiole qui a pas, dire qu'elle n'a aucun caractère nocif pour l'environnement. Donc voilà, elle suce un petit peu la sève des plantes, mais c'est vraiment des petites ponctions, voilà.
Assurée alors, parce que.
Voilà.
Famille des cigales, donc, hein, c'est ça.
Voilà, cicadelles. Alors, il y a des cicadelles qui sont un petit peu plus embêtantes, hein, qui arrivent du sud de la France et qui commencent à nous casser les pieds un petit peu maintenant au nord de la Loire, mais celle-là, elle n'est pas gênante.
Entendu.
Eh bien, je vous remercie.
Pas d'inquiétude. Donc, merci Denise.
Bonne journée à vous.
À bientôt.
Bon week-end.
Enfin.
Belle journée à Pamard. Nous sommes à Cloire-Carnouët chez Martine. Bonjour Martine.
Oui, bonjour messieurs. Voilà. Moi, j'ai une petite question pour Philippe. C'est pour... j'ai ma vigne qui a plein de cloques dessus. Et c'est la première fois que je vois ça. Et chez mes voisins, c'est pareil.
La cloque sur les feuilles de vigne.
Oui, c'est pas la cloque comme sur les pêchers. Hein.
Entendu.
C'est une cloque qui est plus foncée que,
voilà.
que la feuille de la vigne.
Alors, l'idéal quand même pour ce genre de truc, ça serait d'avoir d'avoir une photo, mais je pense quand même savoir ce qu'il en est. Je pense qu'il s'agit de l'érinose. Alors l'érinose, c'est un truc qui provoque effectivement des boursouflures. Hein. C'est un tout petit acarien, vraiment tout petit. Hein. Il est invisible à l'œil nu et il se loge sur la face inférieure de la feuille. Et il suce la sève, ce qui fait que la plante en réaction fabrique cette cloque-là.
Ah,
alors, la solution, c'est tout bête, c'est tout simple. On prend de l'eau, on met 2 cuillères à soupe de savon noir dedans par litre, hein,
oui.
Et puis on pulvérise les feuilles par dessous, absolument par dessous, parce qu'ils sont planqués en dessous. Et en faisant ça, vous faites ça plusieurs fois. Alors, les feuilles qui sont cloquées, elles resteront cloquées. Par contre, les nouvelles qui vont se développer, elles, normalement, devraient rien avoir. Alors, il faut le faire comme pour les pucerons, c'est pareil, c'est 3 jours de suite. Et puis après... Alors moi j'ai une petite loupe, hein, ça marche relativement bien la loupe, on arrive à voir, hein, on les voit pas à l'œil nu, mais avec une loupe on arrive à les deviner, les sales bébêtes, hein, les petites araignées microscopiques, et du coup bah, s'il y en a encore qui sont vivantes, bah, on recommence 3 jours de suite, et puis jusqu'à temps qu'on les voit plus, et puis quand on les voit plus, on rince les feuilles avec de l'eau de pluie, okay, simplement, oui, de manière à enlever l'éventuel reste de savon noir qui pourrait empêcher la plante de bien se développer.
Ah oui, parce que j'ai du raisin, hein, enfin des
oui, tout, mais il y a des grappes, fleurs, oui, des oui, grappes, tout à fait.
Mais
ouais.
J'ai trouvé ça bizarre cette année que j'avais ça. Mais ça fait pas comme le pêcher, hein, la feuille ne se retourne pas.
Non, mais non, tout à fait. Ça fait des cloques qui deviennent marrons en vieillissant. En plus, ça devient marronâtre. Au début, elles sont vertes, jaunâtres, oui, même. Et après, ça devient marronâtre, hein, en vieillissant. Donc, il faut absolument réagir vite, hein, parce que plus vous laissez faire et plus les bestioles ben, pompent la sève. Et donc, votre plante, elle est prête à fleurir. Hein, les petites grappes qu'on voit, c'est des boutons de fleurs. Hein, c'est pas.
Oui, oui,
hein,
oui.
Donc, elle est prête à fleurir. Donc, il lui faut le maximum d'énergie pour faire des belles fleurs et donc derrière d'avoir des belles grappes. Donc, si les acariens sont en train de sucer la sève, ben, c'est pas terrible pour elle.
Ah oui, mais ça viendrait d'où ça alors
Ça vient de la nature. Vous savez, la vigne est cultivée depuis tellement longtemps. C'est certainement la première plante que l'homme a cultivée. Ouais. Que y a tout un tas de bestioles qui sont habituées à vivre dessus. Et voilà. Ça
d'accord,
fait partie du cycle
je vais
naturel.
Mon pulvérisateur.
Voilà.
Je vais attaquer.
Et faites bien attention quand on a pulvérisé du savon noir, il faut bien le rincer à l'eau tiède, hein, pas chaude mais tiède, parce que sinon le savon noir ça bouche les pulvées.
Ah oui aussi. Bien
ah
vu.
Oui d'accord. Très bien. Eh ben je vous remercie beaucoup messieurs et puis Kenavo et puis à bientôt.
Kenavo, bon samedi Kenavo. Sous le soleil. À bientôt à Cloire-Carnouëtte. Merci beaucoup Martine sur France Bleu Brésil. Nous aurons d'autres questions à suivre, bien sûr. Nous serons dans un instant à Moëlan-sur-Mer.
Une question jardin, notre expert y répond tout de suite.
Les Celtas Cortos tout de suite sur France Bleu Brésil. Profitez-en, c'est sous le soleil de Bretagne. En ce jour de la fête de la Bretagne, c'est la Saint-Yves.
Respiran por fin tranquilos, han encontrado te cruce del camino, ay, 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 tú me matas, sí.
Sur France Bleu Brésil, les Celtas Cortos à 9h41. Je vous le rappelle, hein, émission spéciale consacrée au Festival du Polar Le Goéland Masqué édition 2018 à Pinmar cet après-midi. Et puis aussi à suivre en direct, comme si vous y étiez, sur France Bleu Brésil entre 16h et 18h avec Michel Pagès et ses invités auteurs.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Dans quelques minutes, notre agenda vert aussi, hein, Philippe Munier. Nous serons notamment à Plouneur-Ménez, à Pimpin Paul et à Ploudalmézo, mais auparavant, question de Madeleine à Moëlan-sur-Mer. Bonjour Madeleine.
Bonjour à tous les deux. Ben voilà, c'est mes rosiers qui sont, ils sont beaux, j'ai des belles fleurs même.
Ah bien.
Mais par contre, il y a plein de petits trous dans les feuilles.
Hop, voilà.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît?
Alors des trous très 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 petits ou assez importants?
Oui, des petits, mais partout, petits. Dans tous les rosiers.
Entendu, entendu.
Alors, des feuilles trouées. Là, je. Faudrait que. Là aussi, il y a une petite photo, ça serait bienvenu. Ouais. J'hésite entre une attaque de maladie des taches noires, hein, tout bêtement. Donc, mm-hmm. En fait, les taches noires, très souvent, arrivent à percer complètement la feuille et ça provoque tout un tas de petits trous, effectivement, qui sont en général bordés soit de jaune, soit de noir. Hein, donc, sur le fond vert, on le voit relativement bien. Ça peut être aussi une attaque d'insectes. Donc, là, c'est. Ça fait des trous aussi, mais c'est pas les mêmes. Donc c'est vrai que
Et là, il y a ces différences de couleurs quand c'est des insectes.
Alors, en général, non, on voit pas la différence justement.
D'accord.
Il y a un très très léger halo noir, mais vraiment qu'on voit avec une loupe. Alors que quand c'est la tache noire, c'est vraiment évident, quoi.
Madeleine, donc, vous avez cette information à tout hasard, s'il y a des petites couleurs autour du trou ou pas, Madeleine?
Oh, je sais pas, attendez, je vais aller voir dans le jardin.
C'est tellement petit aussi.
Bah oui, regardez.
Non, parce que c'est vrai que c'est important, ça.
En plus, les températures augmentant, on est vraiment sur les...
Non, il n'y a pas de taches noires, c'est des petits trous qu'il y a.
D'accord. Donc, pas de couleur apparemment.
Donc là, on est plutôt sur des attaques d'insectes.
La feuille est toujours verte et puis c'est des petits trous, mais il n'y a pas de taches noires.
D'accord.
Alors dans ce cas-là, on va passer exactement comme pour les rhinoses à l'instant.
Il y a des petits verts. Il y a des petits verts verts dessus.
Ah, ben voilà, voilà. Donc on va effectivement
écoutez bien, Madeleine. Ouais.
On va effectivement faire exactement comme pour les rhinoses de la vigne à l'instant, c'est-à-dire vous faites un mélange, un litre d'eau, deux cuillères à soupe de savon noir, d'un très bon savon noir. Hein, vaut mieux mettre le prix, hein, pas prendre un truc lambda. Et puis vous faites, comme je le disais tout à l'heure, trois traitements, toujours de sous les feuilles d'abord, hein. Donc toujours de bas en haut, de manière à bien inonder le dessous des feuilles pour que ces petites chenilles, là, ces petites larves, elles soient engluées dans le savon noir. Le savon noir va rentrer dans l'œil, les insectes respirent par des tout petits pores vraiment microscopiques. Donc si on bouche les pores avec le savon noir qui est gras, qui est gluant, et bien ça les asphyxie, elles meurent. Donc vous faites ça trois jours de suite, vous regardez, vous vérifiez qu'il y en a encore ou plus. S'il y en a plus, vous arrêtez et vous rincez. S'il y en a encore, vous recommencez trois jours de suite, et puis vous recommencez, vous vérifiez si, et ainsi de suite. Hein, faut pas oublier de rincer à la fin, de manière, là aussi, à enlever le savon qui serait sur les feuilles et qui les empêcherait de respirer correctement, elle aussi.
Voilà, Madeleine.
Que du savon noir.
Ça suffit. Oui, il n'y a pas de souci, ça marche très bien.
Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne journée à tous les deux. Week-end.
Bon week-end à vous aussi, puis au soleil.
Bonjour à ma copine Maggie.
Voilà, bon. Maggie, qu'on salue.
Bon, on l'embrasse, Maggie, allez.
Bisous, à bientôt, Madeleine. Nous allons rejoindre André à Douarnenez. Bonjour, André.
Ben, c'est sa femme.
Ah, mais c'est Hélène, il me semble.
Oui, c'est juste une petite question au sujet. Nous venons d'acheter une maison, là, à Douarnenez. Et il y a un lilas qui est poussé. On a enlevé les rejetons, déjà, qui est poussé un peu comme il veut. Est-ce qu'il est possible de rabattre un lilas assez sévèrement? Et à quelle époque?
Le lilas.
Alors oui, c'est possible, sauf qu'il va vous en vouloir pendant un an ou deux.
C'est pas grave, qu'il reste en vie.
D'accord. Alors en fait, c'est tout à fait possible, et l'idéal c'est de le faire en fait maintenant, c'est-à-dire en fin de floraison. Faut pas non plus le rabattre à ras du sol.
Non, mais par exemple, bon, il est poussé, on l'a jamais touché, quoi. Il est, je sais pas quelle hauteur, enfin vous voyez un petit peu un lilas, les branches sont hautes. Est-ce qu'on peut rabattre par exemple un mètre environ, par exemple, quoi?
Alors c'est pas exactement comme ça qu'il faut réagir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut enlever le bois le plus vieux, mais garder ce qu'on appelle des tire-sèves, c'est-à-dire des branches qui vont continuer à attirer la sève vers le haut. Donc il ne faut pas ne garder que du vieux bois sans aucun jeune rameau. Hein, donc le tout, c'est vraiment de la taille. Hein, c'est pas du rabattage.
C'est pas
le massacre à la tronçonneuse qu'on joue. Donc il faut y aller avec réflexion, et ce qui est très important, c'est de bien garder des beaux rameaux bien développés, hein, de manière à faire remonter la sève, et là votre lilas il va se requinquer et il fleurira pas l'année prochaine, mais dans 2 ans il sera reparti à fleurir.
D'accord, eh ben, c'est parfait, je vous remercie.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir, bonne journée.
Au revoir. À suivre dans quelques secondes notre agenda vert, et puis aussi notre dernière question de Marie à Lorient. France Bleu.
Ce week-end de Pentecôte, Pinmar tourne une nouvelle page. Celle de la 18e édition du Festival international du Goéland masqué. Festival des littératures noires, policières, mais aussi jeunesse et bande dessinée. Une occasion unique de faire de très belles rencontres et d'élucider la part de mystère des 58 auteurs invités cette année. Le Festival du Goéland masqué, du 18 au 21 mai à Pinmar, un événement France Bleu Brésil.
Du 18 au 27 mai, c'est la 10e édition de la Fête de la Bretagne, et cette année encore, elle vous balade d'événement en événement, traditionnel au plus moderne. Entre concerts, festivals, fest-noz, carnaval, expositions, spectacles, des jeux, du chant traditionnel, il s'en passe des choses pour ce 10e anniversaire. Retrouvez toute la programmation sur le site fêtedelabretagne.bzh. La Fête de la Bretagne du 18 au 27 mai, partout, chez vous, avec France Bleu.
Une question jardin, notre expert y répond tout de suite.
Juste avant notre agenda vert, Félix Munier, dernière question de Marie à Lorient. Bonjour Marie, bienvenue.
Oui, bonjour Philippe. Voilà, nous avons des clivias, certains ne fleurissent pas, mais j'ai deux pots où il y a deux grosses racines qui ont fait des fleurs. Donc la dernière est encore en fleurs. Je voulais les dédoubler, et à quel moment peut-on le faire, s'il vous plaît?
Ben ça tombe bien, c'est maintenant, c'est juste après la floraison.
Ah ben voilà.
C'est ce que je pense.
Voilà.
Très bien.
Alors faites attention, surtout si vous voulez qu'ils refleurissent, ne les dédoublez pas trop petits. C'est-à-dire que le clivien, il fleurit bien quand il a une touffe assez importante. Donc vous dédoublez vraiment, c'est juste une division par deux, ou éventuellement un jeune rejeton qui serait bien, très bien développé et que vous les séparez. Mais il faut que ce soit un rejeton qui ait au moins 2-3 ans pour qu'il soit bien développé, si vous voulez avoir, parce que sinon ça va, la plante va souffrir. Pour se remettre à fleurs, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, faites attention de ne pas commettre l'erreur classique, c'est de mettre un pot trop grand. Les clivias aiment être un peu serrés dans le pot. Hein, et quand ils sont un peu serrés dans le pot, ils fleurissent bien.
Oui, d'accord, mais là ils sont vraiment trop serrés.
Oui, non, mais à un moment donné, c'est ça, il faut faire quelque chose, on est d'accord. Mais faut faire attention à ne pas passer, sur un pot trop gros, parce que sinon ils vont prendre le temps de bien connaître tout le pot. Donc des fois, ça peut prendre 2-3 ans, et pendant 2-3 ans, vous n'avez plus de fleurs, et c'est dommage, parce que c'est quand même super beau la floraison du clivia.
Le pot, c'est le cas, ou bien ce sont des mâles, je ne sais pas, mais qui fleurissent jamais.
Il n'y a pas de mâles, ça n'existe pas, hein, tout le monde doit fleurir. Alors après, il faut faire attention, donc, d'une part à ça, d'autre part à un apport correct en potasse, parce que ce qui est très important pour une belle fleur, c'est le phosphore et potasse. Et puis la troisième chose, faire attention que ce sont des plantes tropicales, donc qui ont besoin d'avoir une saison sèche, donc une période de l'année où ils ont très 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 peu à boire, voire pas du tout, de manière à c'est pendant cette période-là qu'ils se reposent et qu'ils préparent la floraison suivante.
Oui, et justement à ce sujet, est-ce qu'il est bon de les sortir maintenant, de les mettre dehors?
Alors maintenant c'est un petit peu tôt. Hein, attendez encore un petit peu, il fait encore trop froid la nuit. Hein, mettez un maxi mini à la porte de la maison, et puis quand il fera 10 degrés, les températures chuteront pas en dessous de 10 degrés, là vous pourrez les sortir.
D'accord.
ce que je vais faire. Donc, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Et bonne journée.
Bonne journée.
Bon week-end à vous.
Pour le Clivia, belle fleur orange. Merci Marie, au revoir. Nous avons notre agenda vert tout de suite sur France Bleu Braille Diesel avec notamment la journée mondiale de l'abeille. C'est demain, dimanche, journée officielle de l'ONU. Et à cette occasion, pour cette journée mondiale des abeilles, le Plouneur Ménez accueille dans son jardin participatif bien tous les amoureux qui souhaitent découvrir la vie de l'abeille de près, à savoir de voir ces fameuses ruches en activité, coupées dans la tranche et qui sont là pour exposer à tous les visiteurs justement l'activité d'une ruche. Donc c'est dans le jardin participatif de Plouneur Ménez demain dimanche de 14h à 17h. L'entrée sera libre. Et puis notez aussi à Paimpol la fête des jardins. Rendez-vous pour cela aujourd'hui et demain au parc du lycée Keraoul. Rendez-vous festif en alternance avec le domaine de la Roche Jagu. Cette fête réunit des professionnels du jardin et des artisans pour montrer leur production végétale. Rendez-vous aussi à une fête traditionnelle, Philippe, où on pourra vous rencontrer, c'est à Ploudalmézo.
C'est ça, c'est la 35e quand même.
Et déjà
35e, mais oui, donc c'est comme d'habitude à Ploudalmézo, c'est au Moulin Neuf. Alors c'est demain dimanche. Et lundi. Alors, voilà. Moi je serai sur place là-bas lundi après-midi. Demain, j'y serai pas. Et puis je voulais aussi, donc toujours pareil, une jolie fête, beaucoup autour de la rose, parce que c'est quand même la reine des fleurs, mais bon, avec beaucoup de pépiniéristes, et puis pas mal d'artisans, donc pas mal de choses à voir. Et puis je voulais juste ajouter une toute petite précision pour Keraoul, c'est que ça commence à 13h aujourd'hui, c'est pas ce matin. D'accord. N'allez pas vous casser le nez là-bas, ça ne commence qu'à 13h.
Entendu, voilà pour cet agenda vert au soleil de Bretagne. Merci beaucoup pour ces conseils toujours si précieux pour tous les auditeurs bretons. Merci beaucoup encore pour vos interventions. Merci Philippe.
Bon week-end à vous.
Ouais, bon week-end.
Salut Morgan.
À la semaine prochaine, merci.
France Bleu Braille-Zizel. France Bleu.